Interlope, une émission transpédéguine et féministe par et pour les intrus.
Un vendredi sur deux de 18h à 19h sur Radio Canut 102.2.
Au taquet. Et oui. Alors, on vous a préparé une émission Rayon X. On va alterner les émissions Kaléidoscope sans réel fil rouge, plus libre, et les émissions Rayon X avec un thème précis qu'on aimerait traiter en profondeur. Du coup, notre Rayon X d'aujourd'hui, c'est un thème difficile mais important, le suicide, et notamment le suicide assisté et l'euthanasie.
La première partie de notre émission sera donc consacrée à l'euthanasie et suicide assisté, et la deuxième au suicide tout court, dont le fait d'être suicidaire, les enjeux autour, et quelques pistes pour se sentir mieux.
C'est un débat qui revient sur la scène médiatique mainstream, mais c'est aussi un terrain miné. Le stéréotype des positions politiques autour de ça, c'est en gros que être pour, c'est être de gauche, progressiste, alors que être contre, c'est être de droite, genre droite catholique, j'ai du mal à le dire, et extrême droite, dans la lignée des pro-vie de merde. Et ça, c'est, on l'a bien vu aux dernières élections présidentielles où tous les candidats de droite étaient contre, et tous les candidats de gauche et d'extrême-gauche étaient pour. Alors on voudrait aborder le sujet du suicide assisté et de l'euthanasie sous un angle qu'on aborde encore trop peu, celui de la lutte antivalidiste. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les luttes transpédéguines, vous allez me dire ? Ben déjà, il y a énormément de TPG qui sont en dit, folle et vice-versa, mais surtout le problème a un peu les mêmes racines dans le darwinisme social, c'est-à-dire qu'on va calquer une vision essentialiste, biologisante sur la société, où en gros, c'est la loi du plus fort, et les plus faibles et fragiles meurent à cause de la sélection naturelle, entre guillemets. Et puis à cause de l'eugénisme aussi.
On voulait dire aussi que rien que le fait d'être TPG, quoi, c'est déjà nommé, on va dire, à risque de suicide.
Et du coup, ouais, pour continuer, on avait quand même envie de donner quelques définitions. Parce que nous aussi, à la base, on ne savait pas trop différencier suicide assisté et euthanasie, sans compter tous les termes qui gravitent autour, comme aide à mourir, aide à la fin de vie, mourir dans la dignité. Alors l'euthanasie, qu'est-ce que c'est ? Historiquement, ça renvoie à avoir une mort douce, qu'elle soit provoquée ou naturelle. Et plus récemment, l'euthanasie est décrite comme une pratique, alors le fait de faire ou justement pas faire quelque chose, visant à provoquer la mort d'une personne, généralement par un médecin ou sous le contrôle d'un médecin, atteint d'une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales ou physiques intolérables, entre guillemets. Et le suicide médicalement assisté, alors c'est une aide apportée à une personne consciente qui demande à mourir. Et par exemple, parmi les pays qui ont légalisé ou dépénalisé le suicide médicalement assisté, il y a le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, les États de l'Oregon, Washington et du Montana aux États-Unis. Et le suicide médicalement assisté en France, il est au jour d'aujourd'hui interdit. Donc en petit récap sur une des différences majeures, Dans l'euthanasie, le médecin injecte le produit létal, alors que dans le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui s'administre le produit létal prescrit par un médecin. Du coup, alors pour continuer et pour aussi savoir en France où est-ce qu'on en est à propos de l'euthanasie, donc l'euthanasie en France, elle est encadrée par plusieurs lois, parmi lesquelles la loi de 2002 sur le droit des malades, qui comprend le droit au refus de traitement, même si cela a pour conséquence d'abréger sa vie. Il y a aussi la loi de 2005, appelée aussi la loi Leonetti, qui proscrit l'acharnement thérapeutique. Donc tout patient, patiente peut ainsi considérer qu'un traitement relève d'une obstination déraisonnable et a le droit de le refuser, y compris si ce refus a des conséquences vitales sur la santé. Et il y a aussi la loi de 2016, appelée loi Clay-Leonetti, qui veut renforcer le rôle de la personne de confiance en portant le témoignage d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Le témoignage de cette personne de confiance prend alors dessus sur les autres, sauf si le patient, la patiente, a rédigé des directives anticipées. Cette loi de 2016 affirme aussi la possibilité de demander, sous certaines conditions, une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette loi interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet cependant une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé à court terme. Donc dans cette loi, l'idée générale est de favoriser plutôt les soins palliatifs, d'interdire l'euthanasie active et d'empêcher une médecin de pratiquer donc une obstination déraisonnable dans le soin des malades en fin de vie. Un équilibre est recherché entre le fait d'éviter des souffrances jugées inutiles à une personne qui va probablement mourir et celui de maintenir en vie cette personne.
Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de ça parce qu'en fait, pour nous, et je pense que ça peut vous parler aussi, ça va parler à toutes les luttes pour les personnes minorisées, marginalisées, discriminées, dont on estime que la vie a moins de valeur et donc coûte trop cher ou n'est pas digne d'être vécue. Et pourtant, on sait bien depuis très longtemps que le suicide est toujours politique. Le privé et l'intime, c'est toujours politique.
Pourquoi ? C'est chiant quand même.
C'est quoi une vie normale ? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale ? Putain, mais une vie normale, c'est quoi ? C'est quoi une vie normale ? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale ? Payer ses factures, c'est une vie normale ? Et s'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est quoi ? S'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est une vie normale ou une vie pas normale ? Et s'en foutre, c'est quoi ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est normal ou c'est pas normal de s'en foutre ? Et regarder s'entasser sans en avoir rien à foutre ? C'est une vie normale ou pas ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est quoi une vie normale ? Putain, mais c'est quoi une vie normale ? Préférer aller au resto plutôt payer le loyer, c'est une vie normale ? Et être clochard, c'est une vie normale ? Ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal d'être clochard ? Normal ou pas normal ? Et s'en foutre d'être clochard, c'est quoi ? Ne pas avoir peur d'être clochard, c'est une vie normale ? Ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? Et être terrifié de devenir clochard et avoir peur de ça au point d'obéir à n'importe qui, obéir à n'importe quoi, parce qu'on a peur, c'est normal ou c'est pas normal ? C'est une vie normale ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? Dire oui monsieur un connard hiérarchiquement supérieur, c'est une vie normale ? Dire oui monsieur parce qu'on a peur, c'est une vie normale ? Mais merde, c'est quoi cette vie normale ? C'est s'acheter tout ce qu'on veut ? C'est ça une vie normale ? Acheter tout ce qu'on veut, c'est une vie normale ? Acheter tout ce qu'on veut, c'est une vie normale ou une vie pas normale ? Partir en voyage quand on veut, c'est une vie normale ? Avoir assez de fric pour faire ce qu'on veut, c'est une vie normale ou une vie pas normale, hein ? C'est normal ou c'est pas normal ? Partir en voyage où on veut, c'est une vie normale ? Avoir assez de fric pour ça, c'est une vie normale ? Ou c'est pas une vie normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? Merde ! C'est pas le faire parce qu'on est pauvre, c'est une vie normale ? Ne pas le faire parce qu'on est pauvre, c'est une vie normale ou une vie pas normale ? C'est une vie normale de pas pouvoir partir en voyage. C'est une vie normale de jamais partir en voyage. C'est une vie normale ou pas ? C'est une vie normale de pas vouloir sortir de chez soi. C'est une vie normale de vouloir aller nulle part. C'est une vie normale ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est une vie normale de vouloir s'acheter des trucs et de pas pouvoir. Et de vouloir s'acheter des trucs et de pouvoir le faire. C'est une vie normale ? rien vouloir s'acheter. Rien vouloir s'acheter, c'est quoi? Rien vouloir s'acheter, c'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? Pas vouloir, c'est une vie normale? C'est une vie normale de rien jamais vouloir? C'est une vie normale, ça? C'est normal ou c'est pas normal? Et avoir tout le temps envie de baiser, c'est une vie normale? C'est une vie normale d'avoir tout le temps envie de baiser? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal, hein? De n'avoir jamais envie de baiser, c'est une vie normale? Avoir soit tout le temps envie, soit jamais envie, c'est quoi? Et avoir jamais envie quand il faut? Et avoir envie mais ne pas pouvoir? Et avoir des envies tordues qu'on peut pas réaliser? Et avoir des envies tordues mais qu'on peut réaliser? C'est quoi tout ça? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est une vie normale ou c'est une vie pas normale? Mais c'est quoi une vie normale? C'est quoi une vie normale, putain? Mais qu'est-ce que c'est une vie normale? C'est une vie où tu ne chiales jamais à 4h du matin? Hein? C'est ça? C'est ça une vie normale? Mais qui c'est qui n'a jamais eu envie de chialer à 4h du matin? Hein? Qui c'est? Et ceux qui ont envie de chialer à 4h du matin, ils sont comment? Ils sont normaux ou ils sont pas normaux? Et leur vie à eux, elle est comment? Elle est normale ou pas? Elle est normale ou pas normale? Et ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale. Ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale, ceux-là. Et ceux qui se laissent aller, ceux qui chialent toute la nuit, ceux qui chialent tout le temps, c'est normal de chialer? C'est normal de pas chialer? C'est une vie normale, putain? Mais c'est quoi une vie normale, putain? Ils ont comment une vie normale, les alcoolos? Ils ont une vie normale? Ils ont une vie normale, les alcoolos? Et les cachetonneux? Ils ont une vie normale, les cachetonneux? Ils ont une envie normale, les cachetonneux? Ils ont une vie normale, ceux qui sont trop déguerres pour chialer à 4h du matin, hein? C'est ça une vie normale? C'est ceux-là qui ont une vie normale, hein? C'est cette vie dont les magazines et les films de merde et les romans de merde nous parlent? Qui c'est qu'il a, hein? Qui c'est qu'il a cette vie normale? Ils ont cette vie normale, ceux qui écrivent tous ces magazines et ces films de merde, hein? Elle est normale leur vie? Et avoir un gosse, c'est normal ou pas? Et ne pas avoir de gosse, c'est quoi? Ne pas avoir de gosse, c'est une vie normale ou une vie pas normale? Ne pas avoir de gosse, c'est quoi? En avoir un et pas le voir, c'est quoi? C'est une vie normale ou pas? C'est une vie normale, putain. Une vie normale, c'est aimer combien de personnes à la fois? 1, 2, 3, 0, 3 000. N'aimer personne, c'est une vie normale.
On est en train d'écouter Pétasse sur la compilation Pandemos.
Et le morceau s'appelle Normal.
Normal ou normal pas normal,
donc quelque chose comme ça.
Et en fait, on voulait vous passer ce morceau. Alors moi, personnellement, je l'ai découvert aux dernières rencontres des radios rageuses, qui est des rencontres une fois par an des émissions féministes francophones. Et je l'ai entendu pendant la nuit de la radio, parce qu'il y a toute une nuit où on diffuse en direct. Et ça m'a beaucoup plu. Mais je sais que toi, tu la connaissais d'avant.
Ouais, moi aussi. Bah, je connaissais du coup cette compile, et c'est un de mes morceaux préférés sur cette compile.
Bah, c'est trop bien en tout cas. Du coup, ça permet de connaître un nouveau son. Du coup, ouais, pour continuer sur toujours la même thématique, où est-ce qu'on en est du débat en France? Parce que on en entend quand même pas mal parler en ce moment. Du coup, dans un dernier avis qui a été rendu en septembre 2022, le comité d'éthique, qui s'est réuni pour discuter sur la question, a émis un avis plutôt nuancé par rapport aux années précédentes, en acceptant pour la première fois la possibilité d'une aide active à mourir, mais à de strictes conditions. Par exemple, que la demande d'aide active à mourir devrait se faire d'une façon, entre guillemets, libre, éclairée et réitérée par la personne concernée, puis être analysée dans une procédure collégiale pour vérifier que les souffrances du ou de la patiente ne peuvent être apaisées. Aussi, il y aurait une clause de conscience pour les soignants, soignantes et les docs pour refuser d'aider le ou la patiente à mourir. Du coup, le comité, comme il avait fait précédemment, insiste sur l'importance des soins palliatifs, soulignant que les débats sur la fin de vie ne doivent pas se résumer à la question de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et donc, ces décisions ont entraîné le lancement, récemment, par le président, des premières démarches pour un éventuel changement de loi, et envisage de lancer une large consultation citoyenne sur la fin de vie, dans l'idée, afin de rendre des conclusions en vue d'un éventuel changement de cadre légal d'ici 2023. Donc à voir 2023, mais il y a des choses qui risquent de bouger, en tout cas après cette consultation citoyenne. Du coup, on va vous passer un petit son.
De même quand on a refusé aux femmes le droit de disposer de leur corps, on arguait soit de la nature, soit du fait que leurs enfants appartenaient aussi éventuellement à leurs époux, ou à leur famille, ou à tout ce qu'on voudra. Jusqu'au moment où ce qui s'est imposé, c'est qu'en définitive, elles s'appartenaient à elles-mêmes. Et pour s'appartenir à soi-même, il faut que le principe d'individuation puisse aller jusqu'au bout. Nous ne prétendons pas imposer nos principes. Nous prétendons ouvrir cette liberté à ceux qui se réclament du principe de la libre disposition de soi. Devant quoi ? Devant ce que les stoïciens appelaient, c'est les événements contre lesquels on ne peut rien. La dignité humaine, c'est que lorsqu'on ne peut plus rien contre quelque chose, vous êtes libre parce que vous pouvez y mettre un terme par votre mort. Alors oui, nous réclamons le droit au suicide assisté et oui, nous réclamons l'euthanasie.
Et bienvenue au Méluche Circus, sous vos yeux ébahis. Notre cher patriarche de la gauche de gouvernement tente un parallèle avec la lutte féministe. Attention, il a bien révisé sa copie. Sans filet et sans doublure, il justifie que la gauche est pour le droit au suicide assisté avec les arguments préférés des droitards sur la liberté et le choix individuel, balayant de façon spectaculaire toute la tradition de la gauche de penser la société de façon matérialiste, où on sait que le privé est politique, merci les féministes, et qu'on n'a jamais vraiment le choix. Attention aux acrobaties de sa grande intelligence. Il met sous le tapis que le patriarcat qui s'abat sur les femmes handicapées a bien souvent la forme de les empêcher d'avoir des enfants. Qu'on les force, et quand je dis « on », c'est les proches, les médecins, les psychiatres, à avorter. Et que dire de cette déclaration venant du même parti qui attège les militants anti-validistes d'Andisocial, de leur programme et de leur université d'été, qui a aligné son livret handicap sur les intérêts des assos gestionnaires qui gèrent les foyers et les ESAT, où l'on enferme les handis, où on les paye en dessous du SMIC, sans droit de se syndiquer et de faire grève. Attention, pirouette politicienne magistrale, car en même temps, la France insoumise vient de faire interdire les consultations médicales en visio, foutant encore une fois dans la merde les handis et les pauvres qui peuvent pas faire des dizaines de kilomètres pour voir un toubib. Ah, je crois que Méluche s'est craché. Allez, je vous recommande chaudement d'aller voir ce que fait le collectif des dévalideuses. Oui. C'est un collectif handi-féministe et on aimerait bien qu'ils soient un peu plus connus.
Mais du coup, voilà, ça suscite quand même pas mal de questions, pas mal d'interrogations, et que bah, même s'il s'agit d'un vrai débat qui concerne tout le monde, est-ce que dans le fond, c'est pour pas vraiment répondre à la question du comment on fait en vrai pour vivre dans la dignité, une vie digne, respectueuse des choix de chacun, de chacune, sans discrimination. Et donc la solution de facilité de dire oui, il faut légaliser, car il y a vraiment des vies qui sont horribles à vivre. Les personnes handicapées, notamment les souffrances atroces dont elles font l'expérience. Et aussi, bah, toutes ces discussion sur la question nous amène à questionner notre propre rapport au mourir, au comment mourir, plutôt qu'à la mort en tant que telle. Et est-ce que demain, bah par exemple, dans 5 ans ou dans 10 ans, on parlera librement d'une mort revendiquée, qui serait inscrite dans la Constitution, comme il y a le droit à la vie, et donc il y aurait le droit à la mort, et le choix d'une demande d'assistance à mourir, qui serait respectée et qui exprimerait notre dignité. Bon, pour ça, il faudrait déjà qu'on arrive à peut-être en parler un peu plus entre nous, au sein de nos communautés, et qu'on dépasse aussi le tabou qu'il peut y avoir autour de la mort, les stratégies d'évitement du sujet qu'il peut y avoir, les malaises que ça crée, et qui sont compréhensibles aussi. Et ça, on en parlera bah, dans la deuxième partie.
Sur Internet, quand on a voulu préparer cette émission, ben, on commence à trouver des articles en anglais sur des gens qui ont recours au suicide médicalement assisté. Et il y en a deux d'articles particulièrement qui nous ont frappés. Et on vous mettra les liens sur le blog. D'abord, c'est un article sur une femme handicapée états-unienne de 44 ans qui s'appelle Satya Dara Kovac, dans l'état du Winnipeg. Je la cite. « C'est pas la maladie génétique qui m'a tuée, c'est le système. » Elle et ses proches expliquent dans l'article qu'elle n'en pouvait plus de ne pas pouvoir vivre dignement ou même aller aux toilettes dans son propre logement était un enfer à cause du manque d'aménagement dans son appart, mais aussi partout, dehors, chez les autres, partout. Le deuxième article est tout aussi alarmant, mais cette fois-ci au Canada. Le titre c'est « Les Canadiens et les Canadiennes se tournent vers l'euthanasie comme solution à la pauvreté insupportable ». C'est sorti cette année. Là, ça pose la question de la récente ouverture au droit au suicide médicalement assisté pour les personnes diagnostiquées d'un trouble psy. En 2016, le gouvernement a même permis le remboursement de l'acte par l'État pour les gens qui n'ont pas les moyens de le payer, alors même que le pays rembourse très peu les soins médicaux, et c'est pourquoi les plus pauvres, c'est eux qui n'ont pas les moyens de se payer des soins, ont commencé à candidater au programme de suicide assisté. Oui, parce qu'il faut candidater. L'article donne l'exemple d'une femme qui a candidaté à ce programme du gouvernement parce que ses allocs de logement ne lui permettaient pas d'obtenir un logement et de vivre dignement avec ses allergies lourdes, je la cite. « Le gouvernement me voit comme un déchet jetable, plaintif et inutile. » Elle a laissé derrière elle des lettres qui montrent qu'elle a désespérément cherché de l'aide du gouvernement pendant 2 ans.
About it. She used to say I'm too dark, habibi. She used to say I'm too thick, habibi. But even then she was so thin, habibi. The signs were all right there. So loud but we just couldn't hear. She thought she found her way out, habibi. And now you wanna talk foul, habibi.
Party at the holiday. She was never meant to stay.
The block with the fresh pints, man, and also
she opened up the suicide door, looking for a way out. Open up the suicide door, so let her get away now. I'm wishing that I could have done more, maybe show you where the brakes are. She opened up the suicide door, I just pray that you're okay now.
I can see her mama with my eyes closed, arms wrapped around her baby for the last time though. I remember those first few nights, we shared the bed and just cried. Middle of a crisis, yet we left her alone. No passenger to listen, had to drive on her own. Blood on her hands, she was rotting on chrome. Maybe the road she was on was too close to your home.
Party at the holiday, she was never meant to stay.
She hit the block with the fresh pints, man, and that's
she
a
opened up the suicide door, looking for a way out. Opened up the suicide door, so let her get away now. I'm wishing that I could have done more, maybe show you where the brakes are. She opened up the suicide door, I just pray that you're okay now.
Old white Maserati or the Rolls Royce Phantom, found the door to leave her body. Matte black Rose Phantom 3+22.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et vous écoutez Interlope, l'émission transpédéguine et féministe. On vient d'écouter un bout de la chanson Suicide Doors, Les Portes du Suicide, écrite et interprétée par Mona Hédar, une rappeuse états-unienne, il me semble. Et elle a écrit cette chanson parce que son ou sa meilleure amie s'est suicidée et elle a décidé de lui dédicacer ce son.
Du coup, on parlait du droit à mourir. Et est-ce qu'en fait, on a toujours le choix? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un vrai libre choix de mourir? Car la vulnérabilité qui est créée par certaines situations, certaines conditions, signifie que les cibles, entre guillemets, du suicide assisté et de l'euthanasie n'ont pas le libre choix de l'endroit et de la façon dont elles vivent. Et que ces personnes, ces cibles, sont des personnes dont le corps et l'esprit ne correspondent pas toujours à l'idéal, qui sont exploitées au profit de ceux et celles qui sont au pouvoir. Ces cibles, ce sont les personnes âgées, malades, handicapées, qui font l'objet de soins, que ce soit en institution ou par des prestataires de soins à domicile à but lucratif. Parmi lesquelles aussi les personnes racialisées sont surreprésentées, en raison de la vulnérabilité créée et de la discrimination. Et c'est aussi considéré, dans le cadre de l'euthanasie et du suicide assisté, que certaines personnes en fin de vie sont foutues et n'hériteraient pas, ne pourraient pas s'épanouir, alors qu'en vrai, cet épanouissement nécessite d'organiser des services adaptés, des soins et du soutien, prévoir de l'aide humaine si besoin, des garanties de niveau de vie convenable, une aide personnelle qui serait autogérée à domicile, des interventions collectives de santé mentale, de prévention, d'appui communautaire. Et donc, c'est un choix, car fournir ces services produit meilleurs résultats, comme une meilleure qualité de vie, une réduction de la douleur et d'autres symptômes, moins de dépression et une espérance de vie plus longue. La mise à disposition de ces soutiens nécessite pas seulement un engagement financier, mais surtout un changement de vision, de pensée, par rapport à la croyance qui anime le mouvement vers l'euthanasie. Le handicap équivaut à de la souffrance et il vaut mieux être mort que handicapé. Du coup, on va écouter un petit témoignage d'une militante anarchiste.
Un militant
anarchiste et antivalidiste.
J'ai d'abord été pour le suicide assisté, et avec la force et la conviction que j'avais à dos. J'étais intense, bornée et revendicatrice. À ce moment-là, on commençait à peine à en entendre parler, et l'opinion publique était plutôt opposée. Ça paraissait radical, immoral, voire blasphématoire. Pour moi, c'était logique que chacun fasse ce qu'il veut de sa vie, dont la stopper. Et puis, toujours intéressée par le sujet, mon avis a changé. D'abord, il y a eu les militants, qui parlaient du traitement de la vieillesse et du handicap, de la difficulté de vouloir rester en vie quand tout le monde nous fait sentir être un poids. Puis la vieillesse et la mort de mes propres grands-parents, qui, bien entourés, malgré la douleur et la dureté de leur vie, n'ont jamais souhaité s'arrêter. La vie était dure, mais ils souhaitaient aller jusqu'au bout. Des amis dépressifs, suicidants, qui ont pu se relever, et qu'on est heureux de compter parmi nous aujourd'hui. Puis ma propre folie et les envies intenses de lui échapper. J'aurais accepté une lobotomie comme une belle opportunité, et si l'aide que j'avais reçue consistait à en finir plutôt qu'à s'en sortir, peut-être que j'aurais accepté aussi. Le chemin paraît parfois beaucoup trop long et désespéré. Un suicide classique a deux caractéristiques que l'euthanasie n'a pas. La difficulté à se résoudre à la violence du geste et la possibilité de le rater. Ma position aujourd'hui, c'est pas une opposition formelle, c'est le refus d'un monde qui proposerait cette option avant d'avoir mis en place toutes les conditions nécessaires à la vie.
Alors que les promoteuristes de l'euthanasie et du suicide assisté affirment qu'elles offrent une alternative à la douleur physique angoissante aux personnes mourantes, la réalité est que de nombreuses personnes qui demandent l'euthanasie ne sont pas en fin de vie et ne souffrent pas d'une douleur insurmontable. Plutôt, elles sont motivées par la peur de la perte de contrôle et de statut causée non par le handicap lui-même, mais par les barrières institutionnelles et le validisme. La politique du handicap dans les sociétés industrialisées est conçue pour restreindre et dévaloriser la vie des personnes handicapées. La solution n'est pas que l'État intervienne pour mettre fin aux vies des personnes handicapées, mais est-ce que du coup il ne serait pas d'abord essentiel d'être déjà respecté comme une personne, un membre de la société, dans ses existences, de changer les attitudes et les politiques discriminatoires qui mènent aux demandes d'euthanasie ? C'est peut-être un remède plus difficile et complexe, mais bien plus honnête, juste et équitable.
Vous venez de décéder. Merci d'avoir utilisé Vita Mort, la cabine suicide préférée des Américains depuis 2008.
Cette machine est bonne pour la ferraille.
Perso, moi, ça me questionne qu'en Suisse, par exemple, où le suicide assisté est autorisé, on autorise... on assiste à une sorte de privatisation de la mort. En fait, c'est des entreprises privées qui gèrent ce bise, en mode grosse dystopie de capitalisme tardif, quoi. Tout ça, ça donne beaucoup à réfléchir, surtout si on repose tout ça dans son contexte historique. En 1941, des nazis ont fait un tableau de gestion qui montre combien d'argent le gouvernement peut économiser en empêchant les personnes handicapées de vivre 10 ans de plus. En 2020... L'officier du budget canadien a sorti un tableau qui s'intitule « Réduction des coûts en santé ». On va vous mettre un lien qui montre les deux tableaux côte à côte. Ça fait froid dans le dos. Alors vous pouvez, si vous voulez, sortir la carte du point Godwin, mais moi je vais vous rappeler que l'action T4 a décimé des dizaines de milliers d'handicapés et de folles pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les folles dans les HP français sont morts de faim. Finalement, le néolibéralisme et le nazisme ont des fondements similaires sur la question des marginaux, des folles, des handicapés. Et elles coûtent trop cher, et elles sont improductives. La magie du néolibéralisme, c'est de privatiser toutes les choses qui relèvent du bien commun, mais pas comme on a pu le connaître avant, c'est-à-dire en demandant moins d'intervention de l'État. La magie du néolibéralisme, c'est que c'est l'État qui va intervenir pour aménager des dispositions légales et économiques pour répondre aux intérêts privés. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va aussi vous faire en sorte que ça soit vous-même qui choisissiez ces dispositions pour votre bien, parce que ça serait votre choix, votre liberté. V'là le progrès. Mais attention, en fait, on veut surtout pas que tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure soit entendu comme une culpabilisation des suicidaires. Au contraire, on veut montrer que cette histoire de choix, c'est une illusion libérale, que les gens poussés à bout n'ont pas eu le choix, qu'elles ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. On veut vraiment promouvoir une vision matérialiste du suicide, du handicap, de la folie. Le matérialisme, ça veut pas dire que ce qu'il y a dans la tête, c'est pas matériel. Ça veut dire que ce qu'il y a dans la tête, ça provient du contexte social, historique, et que donc on a du pouvoir sur ça, même si tout paraît foutu. Au moins, c'est pas la nature, ou c'est pas dans les gènes, entre guillemets. Les oppressions, le capitalisme, le validisme, l'LGBTI-phobie, le racisme, peuvent pousser jusqu'au suicide, et on peut changer ça, collectivement.
Eh ben, à part euthanasie ou suicide assisté, on a voulu aussi parler du suicide tout court et tout ce qu'il y a autour, car entre autres, dans le milieu TPG, on voit nos proches, nos potes, nos connaissances ou nos alliés lutter pour rester en vie, faire des TS ou se suicider. Pourtant, on ne retrouve pas tant facilement que ça, j'ai l'impression en français, des réflexions autour du suicide produites par des personnes de notre milieu. On aurait aimé avoir accès au contenu lié au suicide avec une approche féministe matérialiste qui prendrait en compte des raisons sociales de la détresse menant au suicide, comme des oppressions, des discriminations, les violences infligées aux personnes minorisées qui se perpétuent. Une vision autour du suicide qui responsabiliserait l'État et la société d'avoir créé les souffrances, puis s'intéresse en proposition de réparation ou d'accompagnement efficace, respectueuse et accessible. À la place, on dirait que la réponse d'État et compagnie, c'est de taire, par exemple en utilisant la médication à tout va, sans réel consentement, enfermer dans tout type de prison ou de HP, ou encore buter les gens, tout en tirant le bénéfice matériel, entre autres, de tout ça. Là, je parle, par exemple, d'industrie carcérale ou pharmaceutique. Ou voilà, ne pas laisser d'autre choix que la mort aux personnes qui, en vérité, auraient plutôt besoin d'une révolution. Autant cette vision concerne euthanasie ou suicide assisté dans pas mal de cas, autant le suicide tout court. On a du mal à adhérer à l'idée libérale qui peut être partagée par la gauche que tout le monde devrait avoir le choix de disposer de sa vie et de sa mort, donc on ne peut pas interdire aux gens de tenter de se tuer ou être assisté dans cette démarche. Je veux dire, la réalité très matérielle de cette société, fait qu'on ne dispose pas tant que ça de notre vie déjà. Du coup, ce n'est pas en facilitant aux gens la mort que le problème sera réglé. Sans débarrasser de tout le contexte complexe, des raisons plutôt de l'ordre sociétal qui mènent les gens à vouloir mourir, en disant « bah quoi, on est pour la liberté, chacun chacune choisit pour soi, c'est le droit basique quand même de chacun chacune, et on ne va pas s'en mêler de tout ça ». C'est la réponse un peu trop simple, ultra-ironée et qui permet une sorte de déresponsabilisation face à une souffrance d'autrui. Et ce n'est pas pour dire que si, on peut interdire aux autres de se suicider, ou encore que non, on ne doit pas du tout réfléchir à l'euthanasie. Mais qu'on peut aussi avoir en tête la complexité du contexte et agir en ayant la vision un peu plus éclairée de la situation globale. Parce que oui, le suicide, c'est un meurtre commis par l'État et la société. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et nous, c'est une émission transpédéguine et féministe et on s'appelle Interlope. Et aujourd'hui, on parle du suicide assisté, d'euthanasie et du suicide tout court. Et du coup, dans cette partie de l'émission, on voulait se pencher plutôt sur les idées suicidaires ou crise suicidaire, si on peut le nommer comme ça, et le rôle d'entourage ou d'autres personnes dans le soutien ou encore l'autosoutien. Et on a regroupé quelques pistes qui puissent être utiles, on l'espère, pour vous, pour nous. Déjà, on a voulu créer au moins pour une heure à la radio un espace où ce sujet ne serait pas un tabou, parce que ça ne nous est pas étranger, la solitude dans laquelle les personnes peuvent se retrouver face aux idées suicidaires. Je veux dire, déjà, la solitude peut mener en soi à l'envie de mourir, et ça peut être la solitude liée au fait d'être isolé, donc ne pas avoir d'entourage et de soutien, ou encore être entouré, mais par des personnes avec qui on ne peut pas partager certaines choses importantes pour nous, par exemple. Puis à partir du moment où on commence à avoir la solution pour nous dans la mort, commence une sorte, une autre solitude, je trouve, qui touche au fait que penser à la mort ou élaborer le plan de son suicide, oui, ça peut avoir un effet apaisant, style nous permettre d'avoir le contrôle sur la situation, dans le sens qu'on a une prise sur notre souffrance, qu'on peut l'arrêter. Mais par ailleurs, ça peut créer des angoisses, des peurs, des sensations, une sensation d'injustice, qui est vrai, quoi, ou de culpabilité, ou d'autres émotions dures à traverser, et justement là, on se retrouve à les traverser toute seule, tout seul, parce que c'est dur de partager avec son entourage autour de ce sujet. Déjà, on peut avoir peur de ne pas être comprise, on peut avoir peur des réactions déplacées ou pathologisantes, ou inversement minimisantes. On peut ne pas vouloir inquiéter les proches, car pour beaucoup parmi eux, elles, leur réaction sera la peur, normale. Du coup, la peur qu'on finirait par se buter, entre autres, et elles ne veulent pas nous perdre. Ou encore, on aurait peur qu'elles nous proposent ou imposent une prise en charge qui ne nous convient pas. Par exemple, les urgences psy ou des médicaments, si on ne veut pas de tout ça pour ne pas subir les conséquences dévastatrices potentielles. Ou encore, on ne dira probablement pas à notre psychologue ou psychiatre qu'on pense au suicide, de peur pareil d'être prise en charge, comme ils l'appellent, puisque ces personnes peuvent, s'ils veulent, exercer leur pouvoir sur nous. Parce que vu que représenter un danger pour soi, entre guillemets, est une des raisons d'hospitalisation, sous contrainte si on ne coopère pas, ça ne nous permet pas de s'exprimer à ce sujet librement, de peur de représailles si on aimerait éviter HP. Bon, après, comme les HP sont blindés, il y a manque de lits et tout, manque du personnel, ils ne peuvent pas non plus enfermer tout le monde. Du coup, juste pour rectifier, on n'atterrit pas inévitablement dans un HP, même si on a parlé du suicide en psy. De plus, si on est en train d'élaborer un plan de notre suicide, ce qui n'est pas une mince affaire si on a envie de garder le contrôle sur ce qui se passera après notre mort, genre nos personnes et ou animaux à charge, où ils vont aller, nos affaires personnelles, si on ne veut pas que quelqu'un fouille dedans, etc. Ou dans le cas où on rate, et bien là aussi on est ultra seul car on ne va pas demander les conseils à nos proches, évidemment. Bref, tout ce passage, c'est une tentative d'exprimer la reconnaissance d'une solitude, parfois extrême, que des personnes suicidaires peuvent traverser et qui peut faire très mal. On vous soutient.
Aujourd'hui j'ai 15 ans, paraît que tout va bien dans ma vie. En vrai je fais semblant, mais je m'accroche et je respire. Je fais partie de ces jeunes perdus, souriant par politesse, entouré mais pourtant si solitaire. 15 ans de vie, 30 ans de larmes, versés dans le noir quand le silence blessait mon âme. Plutôt banal pour une gosse de mon âge, le cœur balafré de rage, j'aimerais pouvoir vivre en marge. Cette vie de merde n'a que le goût d'un somnifère, mais je me dois de les rendre fiers qui me croient si solidaires. Si vous saviez, seul dans ma chambre, comme je souffre, j'ai le mal de l'ado en manque à bout de souffle. Eux ils sont forts, moi je ne suis rien, rien qu'un moment d'or face à l'adulte, je le sais bien. Ne rabaissez pas un jeune qui peut paraître à l'abri, car vos mots le pousseront à mettre un terme à sa vie. Je veux partir pour mieux revenir et devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien parce que je reviens de loin. Je veux partir pour mieux revenir et devenir quelqu'un. Au nom des jeunes incompris qui luttent contre eux-mêmes, au nom de ceux qui savent combien nos vies sont malsaines. Toujours sourire et faire semblant de s'aimer, mais dans le fond se détestent, on aimerait pouvoir céder. Pourquoi l'adulte ne sait pas ce que je sais? Pourquoi me prend-il pour une môme quand il croit me renseigner? Pourquoi m'empêcher de grandir avec mon temps?
On écoute TS de James, que vous avez sûrement reconnu.
Du coup, on continue. On se demandait du coup comment on peut se sentir moins seul dans ces situations, comment on peut recevoir ou se donner de l'aide. Et qu'est-ce qui a pu nous faire du bien ou nous faire avancer ou juste survivre le temps d'une crise suicidaire pour des personnes qui fonctionnent par des crises. On a essayé de regrouper quelques pistes qui nous semblent plus ou moins efficaces et on va vous les raconter, partager, tout en espérant que vous trouverez dedans quelque chose d'utile pour vous. Puis on va vous laisser des références sur notre blog. Les pistes suivantes sont juste des pistes, d'accord, des possibilités. Évidemment, tout ne va pas convenir à tout le monde. Chaque situation est différente. Mais peut-être que ça vous donnera des idées vers où réfléchir, quoi. Et du coup, sera quand même utile. Du coup, pour des personnes qui fonctionnent plutôt par des crises suicidaires, ce qui voudra dire, on va dire, que la personne est suicidaire en général, mais pas forcément tout le temps, est déterminée à se tuer et voit d'autres possibilités pour soi à des moments. Mais qui traverse régulièrement des moments de désespoir pendant lesquels le suicide devient la seule porte de sortie de la souffrance, puis que ça passe jusqu'à que ça recommence à nouveau. Et bien, le truc qui pourrait peut-être marcher pour rester en vie, c'est de tout faire pour retarder le passage à l'acte. Parce que dans 30 minutes ou une heure ou quelques heures, je ne sais pas, la crise en soi pourrait passer peut-être. Et on verra peut-être plus clair pour essayer de mettre en place d'autres solutions, puisqu'on ne sera pas autant activé émotionnellement. Genre, ok, je me tue, mais après la promenade de mon chien, car je ne serai pas là après pour le faire. Ou, je me tue, mais d'abord je trie les dossiers sur mon ordinateur, car je ne serai pas là après pour le faire et je ne veux pas qu'on fouille dedans. Bon, vous voyez quoi. N'importe quoi pour gagner du temps. Pendant ces activités, quelque chose risquera de nous déconcentrer de notre idée de suicide et on sortira du boucle suicidaire, au moins pour ce fois-ci. Une autre option, attendre d'être tellement fatigué qu'on n'aura plus la force de se buter. Comme des émotions fortes sont épuisantes, on risque de terminer la crise en s'endormant, il faut profiter. Après, je suis consciente que le sommeil ne marche pas pareil pour tout le monde. En général, je trouve que des stratégies qu'on développe qui ne nécessitent pas de participation d'autres personnes, c'est peut-être les plus sûres. Simplement parce que les autres peuvent ne pas être accessibles sur le moment, genre ils dorment ou je ne sais pas quoi, et pour ne pas se retrouver sans solution et aussi garder l'autonomie, c'est bien d'avoir des tips qu'on réfléchit en avance et qui sont adaptés à nous. C'est bien aussi d'avoir plusieurs, au cas où un ne marche pas. Ça peut aussi aider de les écrire et afficher sur le mur de notre chambre, par exemple, comme ça on n'oublie pas sur le coup qu'il existe. Genre 1, prendre en douche, 2, en anxieux, 3, compter de 100 jusqu'à 0 en enlevant 13 à chaque fois. Bref, c'est assez personnel, rien n'est universel et à réfléchir et à tester par chacun, chacune. Sinon, comme parler avec ses proches de ses envies suicidaires puis demander d'aide tout court, c'est pas forcément simple. Une des options, ça peut être de les prévenir, si ils sont DAC, que s'ils reçoivent un SMS avec chiffre 5, par exemple, c'est que c'est chaud et il y a besoin d'aide. Cette aide, c'est pas forcément de venir nous sauver ou quoi, ni même nous discuter si on n'a pas envie ou pas capable d'en parler, mais ça peut être juste un truc pour nous distraire, quelque chose qui nous sortira du boucle, genre promenade, foot, film, repas, n'importe quoi d'autre que le suicide. On peut avoir même des chiffres spéciaux pour chaque activité, style 5, ça va pas, et besoin de 1, appel, 5, ça va pas, et 2, besoin de sortir dans le parc, etc. Un autre truc, ça peut être d'écrire les directives anticipées pour une crise suicidaire à utiliser par des proches, comme ça leur aide sera plus appropriée. Ça permet de réfléchir en avance sur comment on aimerait être aidé pendant la crise, car sur le moment, on peut être trop désorienté ou pas simplement capable de communiquer ou formuler de quoi on a besoin. En gros, c'est un algorithme à suivre voilà, pendant notre crise qui pourront appliquer, écrite par nous quoi, et qui pourront appliquer nos proches. Et on vous mettra un lien vers un exemple adaptable pour une crise suicidaire quoi, dans notre blog. Si demander d'aide à son entourage direct, ça peut s'avérer parfois compliqué, alors parfois c'est plus simple de parler avec des gens qu'on connaît moins, avec qui il n'y a pas d'un fort affect, mais qui puissent comprendre ce qu'on traverse, du coup les pères. Ça peut être juste des gens ou encore des groupes de parole dans la vraie vie ou sur Internet. Ce n'est pas toujours simple à trouver, puis ça peut être pas évident de trouver des espaces dans lesquels on se sent à l'aise ou en confiance ou comprise, mais ça reste une piste. Si on arrive à trouver des liens, on vous les mettra pareil sur le blog. C'était plutôt des tips pour la situation en crise, mais il y en a d'autres qui marchent plutôt sur le long terme, évidemment, comme avoir de l'aide pour demander un AH, par exemple. On peut s'adresser aux assos style Antipsilion 2 ou La Marginale, on vous mettra les liens. Ou encore se mettre d'accord avec quelqu'un de notre entourage pour qu'on nous aide à faire le ménage une fois par semaine ou à manger, par exemple. En gros, tous ces trucs-là, oui, même le ménage, ça peut améliorer nos conditions de vie et participer du coup au fait qu'on aura peut-être moins envie de mourir.
Et pour finir, on vous propose d'écouter une musique du groupe GLOSS. GLOSS, c'est un acronyme qui veut dire Girls Living Outside of Society's Shit. Les filles qui vivent en dehors de la merde de la société. C'est un groupe queer punk, en gros. Et je pense que ce titre, il s'appelle Give Violence a Chance, laisser une chance à la violence. Et ça peut être aussi une réponse. Vous êtes toujours sur Interlope, sur Radio Canu, l'émission Transpédégouine et Féministe. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour de notre première émission Rayon X. On a traité du suicide, de l'euthanasie, du suicide assisté. C'était une émission hyper dense. Et il y a même des trucs qu'on n'a pas eu le temps de dire, donc peut-être qu'on reviendra dessus dans la prochaine émission Kaléidoscope.
Ouais, j'espère que... c'est vrai que le sujet, il est assez trigger. Et on espère que ça vous a fait... plus du bien que du mal, en tout cas c'était aussi pour réfléchir ensemble et tout, avoir une vision politique du suicide et du suicide assisté et d'euthanasie, mais aussi pour s'entre-soutenir et tout, vous voyez. Et si jamais vous avez des retours ou quoi, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail qui est interlope@cryptolab.net.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Crypto avec un Y.
Ouais. Voilà, on vous l'aura.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Radio Canu.
Bonne soirée.
Ciao.
Interlope, une émission transpédéguine et féministe par et pour les intrus.
Un vendredi sur deux de 18h à 19h sur Radio Canu 102.2.
Bah alors, Franchement, c'est complètement précédent.
Simple précédent, tu vas se mettre à ça.